L'Opus Festival depuis l'Hôtel Le Maréchal de Colmar, 29e édition du 5 au 14 juillet. Hommage au chef d'orchestre Michel Plesson, et bien c'est sur Accent 4 et c'est naturellement maintenant tout de suite.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est et d'Arpège Armand Meyer.
Bonjour à toutes et à tous et merci de recevoir chez vous ce troisième numéro de l'Opus Festival de Colmar. Deux concerts en ce début de soirée, dans quelques minutes à la 18h15 à la Chapelle Saint-Pierre. Hélène Mercier et Renaud Capuçon joueront Beethoven, Chausson et Ravel. Puis à 21h, à l'église Saint-Mathieu, Emmanuel Plesson, le fils de Michel, sera à la tête de l'Orchestre National Philharmonique de Russie et dirigera des œuvres de Bizet, Poulenc, Bernstein et Chabrier. Mes invités du jour, eh bien, Philippe Quint, Sofia Gulbadamova et Emmanuel Plesson. On écoute Michel Plesson. La première des trois valses romantiques d'Emmanuel Chabrier, orchestrée par Félix Motel, l'orchestre du Capitole de Toulouse, placé sous la baguette de Michel Plesson. Un enregistrement réalisé à la Halle aux Grains de Toulouse en 1989. La direction artistique de cet enregistrement était alors assurée par Alain Lanceron, qui sera mon invité dimanche. Bonjour Sofia, bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être présent à ce micro d'Accent 4. Philippe, je vous avais reçu l'année passée. Et vous aviez été, d'une certaine manière, la révélation de ce festival de musique de Colmar. Vous aviez joué le concerto pour violon d'Eric Korngold avec la complicité de l'orchestre du Capitole de Toulouse, placé sous la direction de Tugan Zofiev.
Yes, it's true.
Là, je peux traduire, c'est exact. Et cette année, vous serez à nouveau à Colmar, avec cette fois-ci l'Orchestre National Philharmonique de Russie, pour un programme Bernstein, la sérénade d'après le banquet de Platon. On va en parler dans quelques minutes, mais pour l'instant, on va parler un peu de Michel Plasson, peut-être. Qu'est-ce que représente cette figure importante de la musique française pour vous deux, qui, vous êtes russo-américain, et vous êtes de quelle origine, Sophia ?
Russe.
Russe.
Je suis née à Moscou.
Et vous avez fait une grande partie de vos études aussi en France, qui explique votre français. Et puis, c'est vous aussi qui assurez la traduction des propos pour Philippe. Michel Plasson, pour vous.
Michel Plasson, c'est une figure très importante. Un des plus grands chefs d'orchestre français. Donc, pour moi, personnellement, c'est un grand honneur de participer dans ce festival en général, mais surtout aussi dans le festival qui est dédié à lui et où il dirige lui-même, et de pouvoir finalement témoigner les concerts dirigés par le grand maestro.
Philippe, Michel Plasson.
Yesterday was the very first time that I had the chance to experience Maestro Plasson.
Ça va être la première fois que Philippe Quint va voir et aussi témoigner Michel Plasson comme chef d'orchestre en vrai, comme moi d'ailleurs aussi.
On va parler de Poulenc. Sophia, vous, tout à l'heure à 21h, vous allez jouer le concerto pour piano de Poulenc, un concerto qui a été créé à Boston avec le compositeur au piano et l'orchestre symphonique de Boston dirigé par Charles Munch. Quelques mois plus tard, en juillet 1950, il a été créé à Aix-en-Provence. Et vous me disiez tout à l'heure hors micro, vous considérez d'une certaine manière que le titre de concerto pour piano n'est pas tout à fait juste.
Oui, c'est vrai. Alors, si on prend les grands concertos pour piano et orchestre, soit que, comme dans le cas de Chopin, par exemple, c'est comme une grande cadence. Du début à la fin, ça explique d'ailleurs aussi pourquoi il n'y a pas de cadence dans les concertos de Chopin. C'était pas nécessaire. Ou c'est plutôt de la musique de chambre, mais d'une façon où le piano joue le rôle principal, est très présent, comme dans les concertos de Beethoven, de Schumann, etc. Ou aussi plus récents, comme Rachmaninov, ou le concerto, les concertos, les deux, de Dohnányi, que j'adore. Dans le cas de Poulenc, j'ai joué aussi Obad pour piano et 17 instruments. Et là aussi, c'est absolument de la musique de chambre, mais le piano, il ne joue pas le rôle tellement principal et important. Il accompagne beaucoup et il est vraiment une partie intégrée complètement dans le procès et dans l'orchestre. Et dans le cas de ce concerto de Poulenc, les thèmes et beaucoup de choses importantes, tout ça se passe dans l'orchestre. Pour moi, c'est un grand plaisir de l'écouter, parce que surtout vu avec quel orchestre je le joue, ça serait sûrement formidable. Et j'adore le résultat, parce que le but, c'est la musique. C'est pas comme dans beaucoup des autres concertos, comme Liszt par exemple, de montrer la virtuosité du pianiste. Il s'agit vraiment de la musique.
Alors, ce concerto a suscité, au moment de sa création, à la fois aux États-Unis et en France, une certaine réserve du public et de la presse. Or, la musique de Poulenc, on sait qu'il y a deux aspects dans cette musique. Il y a à la fois un côté sérieux et un côté quelque peu mauvais garçon. D'ailleurs, Claude Rostand, qui était un musicologue et qui a réalisé toute une série d'entretiens radiophoniques avec Poulenc, l'avait qualifié de moine et voyou. Vous comprenez qu'il y ait eu une certaine incompréhension du public face à cette œuvre?
Pas vraiment, à vrai dire, parce que Poulenc, il était un des trois les plus grands compositeurs, à mon avis, du XXe siècle, qui était orienté vers l'arrière, avec son esthétique musicale. C'était pas quelqu'un comme, par exemple, la nouvelle école viennoise. C'était pas quelqu'un qui cherchait forcément des nouveaux chemins dans la musique. C'était quelqu'un qui suivait son cœur. Et à mon avis, ça, c'est la qualité qui est vraiment la plus précieuse dans sa musique. Les autres deux compositeurs, pour moi personnellement, c'est Rachmaninov et Dohnányi, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, et Poulenc est le troisième. Donc, vu que je me sens très connectée avec tous les trois, ça n'étonne pas qu'il y a pas mal des œuvres dans mon répertoire des trois.
Dohnányi, un compositeur qu'on connaît finalement peu en France, qui est l'auteur d'une très belle symphonie, d'une deuxième symphonie particulièrement réussie.
Oui, mais toutes les deux symphonies sont formidables. Il y a aussi une qui n'était pas publiée en fa majeur, qui est magnifique aussi, une suite pour orchestre qui ressemble beaucoup à une symphonie dans sa grandeur et dans son message d'ailleurs aussi. Dohnányi, c'est quelqu'un où je me bats depuis des années pour qu'on reconnaisse sa musique et sa grandeur comme compositeur, parce que c'était vraiment un très très grand. Et la raison pourquoi on le connaît si peu, et non seulement en France, ça n'a rien à voir avec sa musique en fait. C'était une affaire politique qui s'est déroulé après la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'avait rien à voir avec la vérité. Il était déclaré criminel de guerre. Mmh. Et c'était complètement faux, parce que c'était quelqu'un qui a sauvé tellement de gens. Par exemple, Karl Flech, le grand violoniste, qui a enseigné en Suisse plus tard, à Lucerne. Il était sauvé par les mains de Dohnányi, personnellement. Et c'est témoigné par le petit-fils de Dohnányi.
Christophe. C'est
un peu... Par le petit-fils de Karl Flech, je suis désolée. D'ailleurs, les petits-fils de Dohnányi, il en a deux de ce côté. C'est non seulement Christophe, mais aussi Klaus von Dohnányi, qui est en Allemagne, est très très connu, c'est un politicien de très haut niveau. Et un homme d'un grand charme. Je l'ai rencontré une fois, c'est quelqu'un qui ressemble aussi beaucoup à son grand-père.
Très bien. On continue un petit peu avec Poulenc. Alors je vais vous citer une phrase de Poulenc. Il dit « Depuis 30 ans que j'écris de la musique, j'ai tour à tour souhaité, je vous l'avoue, pouvoir étrangler une douzaine de chefs d'orchestre, poignarder plus de 50 pianistes, revolvériser au moins 200 chanteuses. Certes, un tempo ne doit pas être d'une rigueur mécanique, mais il faut partir d'une base indiscutable. Ayons toujours sur notre piano le charmant obélisque batteur de mesure des pensionnaires, pensionnat de jadis. » Ces propos nous conduisent à réfléchir sur ce qu'est l'interprétation. Poulenc établit une base et il ne veut pas que le pianiste en sorte.
Oui, tout à fait. Il est toujours très exact dans ses indications. Et vu qu'il a vécu récemment, il en a encore beaucoup de gens qui le connaissaient. Par exemple, Gabriel Taquino, j'avais le grand honneur de le rencontrer. Il était le directeur du jury du concours Poulenc.
Que vous avez remporté.
Oui. Et plus tard, je l'ai rencontré encore une fois dans l'école normale de Courtauld, où de nouveau, il était... directeur du jury dans l'examen, et c'est quelqu'un qui peut vraiment tout raconter par rapport à Poulenc. Et c'est vrai qu'il faut absolument suivre ce qui est noté dans les partitions. C'est aussi un grand privilège pour les artistes, parce que parfois on n'a que des devinettes dans les partitions, mais là tout est très exact. Mais la musique elle-même, elle parle tellement, elle nous parle et elle nous explique quoi faire. Donc
il faut aller vous écouter tout à l'heure à 21h, jouer ce concerto pour piano. Vous serez donc en compagnie de l'Orchestre National Philharmonique de Russie, placé sous la direction d'Emmanuel Plasson. Pour l'instant, on va écouter Gabriel Taquino dans le troisième mouvement, le Rondo à la Française. C'est l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par Georges Prêtre, l'ami de Poulenc, décédé en janvier dernier.
Thank you.
le rondo à la française du concerto pour piano et orchestre de Francis Poulin, Gabriel Taquino, l'orchestre de la Société des concerts du conservatoire Georges Prêtre. Philippe Quint, vous êtes violoniste et pendant l'écoute de cette musique, vous nous disiez qu'il y avait un petit côté hollywoodien à cette musique.
Я слышу элементы, определенные элементы. Я даже слышал известную американскую фольклорную песню, которая была использована.
Il entend les éléments qui étaient utilisés dans la musique hollywoodienne et il a même entendu une chanson populaire folklorique américaine.
Я, к сожалению, не так часто встречаюсь с творчеством Пуленко.
Malheureusement, il rencontre pas très souvent les œuvres de Poulenc.
Поэтому мне немножко трудно судить по поводу того, откуда он брал свое вдохновение. Я, может быть, полностью не прав, но это то, что слышу при первом впечатлении.
Donc peut-être il n'a pas complètement raison dans son impression. D'où viennent les racines de cette musique, mais c'était de toute façon ce qu'il a pensé en écoutant le concerto.
Alors, Philippe, tout à l'heure avec Emmanuel Plasson qui vient de nous rejoindre, bonjour. Vous allez jouer cette sérénade pour violon d'après le banquet de Platon de Leonard Bernstein. Tout à l'heure avec Sophia, on parlait du côté mauvais garçon et garçon très sérieux de Francis Poulenc. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de Bernstein dans cette musique, dans sa musique ?
В музыке Бернштейна, по-моему, есть все.
Dans la musique de Bernstein, il en a tout. Donc aussi côté mauvais garçon. Bien évidemment.
Там плохой мальчик, хороший мальчик.
Mauvais garçon, bon garçon, il y a tout.
Но как бы в музыке Бернштейна смешивается грандиозное количество влияний и стилей.
Dans la musique de Bernstein, il y en a un sacré mélange des influences et des styles tout à fait différents.
On pourrait parler de sa messe, masse qui reprend divers styles et notamment de la musique pop.
Ну, вы знаете, мне недавно удалось играть его фортепианное трио, когда ему было 18 лет. Это была первая его камерная такая серьезная работа.
Récemment, Philippe a eu l'occasion de jouer le trio pour piano, violon et violoncelle de Bernstein, qu'il a créé en ayant 18 ans. C'était son première œuvre importante pour la musique de chambre.
Et вот в этом трио как раз было начинание вот того, что мы услышим позже в Бернштейне.
Et dans ce trio, il y a déjà tout le début pour tout ce qu'on entend plus tard dans la sérénade par exemple, ça existe déjà dans le trio.
И было очень интересно как раз посмотреть, вот как развивался этот композитор с ранних лет до серенады, которую мы играем завтра.
C'était très intéressant de regarder comment le compositeur s'est développé entre le trio, qui est une œuvre de jeunesse, jusqu'à la sérénade.
Ведь Бернштейн сейчас большинству известен как человек, который сделал свое имя на театральной музыке и Бродвее.
Бернштейн aujourd'hui est principalement connu surtout pour la musique qu'il a créée pour le théâtre, pour Broadway.
Oui, sa story, etc. Oui, c'est vrai que tout le pan de sa musique sérieuse, on la connaît pas, à part la première symphonie, la troisième symphonie, la symphonie Kaddish, les psaumes de Chichester, ça on les connaît très bien.
Et Age of Anxiety aussi.
Pardon ?
Age of Anxiety aussi, sa deuxième
symphonie. Oui, la deuxième symphonie.
Et, естественно, Серенаду, которую он сам считал одной из своих самых лучших и самых серьезных работ.
Et aussi, Philippe dit qu'il est aussi connu pour sa sérénade que lui-même, Bernstein, il est considéré comme une de ses œuvres les plus importantes et plus sérieuses.
Et c'est une œuvre qui traite de l'amour, cette sérénade.
Да, это абсолютно правда.
Tout à fait.
Произведение основано на симпозиуме Платон.
Ça se base sur le symposium de Platon.
Le banquet de Platon.
Voilà.
Et это произведение, естественно, интересно тем, что Бернштейн представляет какой-то мере свою оригинальную форму произведения, используя элементы каждой части, которые слышны в следующей части.
И эта œuvre, elle est aussi remarquable pour la raison parce que il présente sa propre vision de forme dans cette œuvre en montrant les thèmes qui déjà sont venus dans le mouvement précédent dans le mouvement qui suit.
Но для меня эта работа фактически является автопортретом Бернстайна.
Pour Philippe, cette œuvre c'est quasiment le autoportrait de Bernstein.
C'est un sentiment que vous partagez, Emmanuel Plasson?
D'abord, bonjour. Et moi, je suis très heureux d'être ici pour toutes les raisons que vous imaginez.
Bien
pour
sûr.
L'hommage à mon père, l'orchestre de Vladimir Spivakov, qui est merveilleux. C'est un grand bonheur de travailler avec eux parce qu'ils aiment la musique profondément. Pardon de ne pas répondre à votre question tout de suite. J'en profite pour parler des autres choses. Mais, parce qu'on a eu une expérience à Moscou, on a travaillé avec l'orchestre. Et quand un orchestre aime la musique comme eux, veut travailler, alors ça change la vie du chef complètement. Parce que c'est pas partout pareil. Voilà. Donc pour répondre à votre question, oui, moi je trouve que Bernstein, c'est un compositeur extrêmement doué, comme il l'était à la baguette aussi, très versatile, très un peu touche-à-tout dans les styles, parce qu'il avait bien sûr le jazz en lui, il avait la musique de rue, on peut penser à tout, et bien sûr sa formation, grande formation de musicien classique aussi, fait qu'il a produit une musique extrêmement, avec des palettes extrêmement variées. Et dans cette sérénade, on retrouve ça. Ça peut être un opéra, ça peut être tout y passe, comme on disait tout à l'heure. Et je crois que c'est le compositeur du XXe siècle, peut-être un des plus versatiles, un des plus avec un horizon plus large qu'on pourrait imaginer. Et c'était un homme de théâtre aussi, parce qu'évidemment, vous parliez des comédies musicales, il y a eu Candide aussi qui l'a écrit. Candide, c'est l'opéra comique américain, mais c'est la comédie musicale aussi, extrêmement brillante, très, très bien ficelée, comme on dit, vraiment avec le savoir-faire des Américains dans ce style. Moi, je suis très heureux de rencontrer Philippe, que je ne connais pas encore, mais on va se connaître bientôt avec la musique. Et donc, dans cette belle pièce que j'ai eu la chance de diriger avec Régis Pasquier à Toulouse il y a longtemps. C'est la seule fois où j'avais fait cette belle pièce.
Un extrait de la sérénade de Bernstein, sérénade pour violon d'après le banquet de Platon. Philippe Quint en était l'interprète, un disque Naxos, salué d'ailleurs par la presse spécialisée. Emmanuel Plasson, eh bien vous êtes le fils de Michel, que l'on recevait hier pour la première de cette série d'opus. Est-ce que c'est difficile d'être le fils de son père quand on est musicien et qu'on a choisi d'être musicien ?
C'est déjà difficile d'être le fils de quelqu'un au départ. Après, ça se complique quand on choisit la même profession. Mon parcours m'a aidé à supporter ça peut-être un peu mieux, dans le sens où j'ai commencé à Toulouse, j'ai commencé par le violon.
Avec votre maman ?
Violoniste aussi.
Avec
maman à Toulouse, au conservatoire. Et ça m'a, en étant sur place avec l'orchestre de mon père, ça m'a permis de faire partie de l'orchestre, d'apprendre le métier comme ça, donc de l'intérieur, d'observer les chefs, d'observer mon père qui travaillait entre l'opéra et le symphonique. Et donc j'ai été formé assez naturellement grâce à ça. Et comme j'ai fait partie de l'orchestre de Toulouse en tant que violoniste, j'ai commencé à diriger l'orchestre quand j'ai fait mes premières études de direction. Alors c'était compliqué au début, et puis petit à petit, avec l'expérience qui est venue, j'ai pris plus d'assurance, et en retour, l'orchestre va peut-être traiter avec un peu plus de respect quelques années après. Mais le fait d'avoir fait partie de ce groupe en tant que violoniste et d'avoir eu beaucoup d'amis, collègues à l'intérieur, a fait finalement que je me suis senti peut-être, j'ai été guidé de manière plus facile, entre guillemets, qu'un peu en déboulant, sinon en tant que chef comme ça dans le jeu, sans avoir eu cet environnement pour moi. Mais oui, non, ça n'est jamais facile. Moi, je le prends toujours plutôt comme un aspect positif, dans le sens où ça m'a permis d'apprendre très très jeune les détails et les recoins de ce métier, et ça m'a quand même préparé beaucoup à ce métier grâce à ça. Donc je peux pas être déçu de la situation ou gêné, je ne pense pas.
Donc la carrière musicale, c'est aller de soi. Il y a quelques années, je recevais à votre place Ken David Mazur, le fils de Kurt, et lui me disait que la musique, c'était pas une évidence du tout avant qu'il ne se décide à devenir chef d'orchestre.
Ça dépend des parcours et des personnes. Je crois que mes parents ont eu l'intelligence de me guider très bien vers la musique sans forcer. En laissant venir, et c'est venu, mais c'est vrai que j'ai des exemples comme celui que vous citez où ça n'est pas donné, entre guillemets. Mais quand c'est le cas, c'est un bonheur, parce que contrairement à beaucoup de jeunes, on sent que on fait partie d'un élément qui est là, qui est beau, c'est artistique. Donc au lieu de chercher dans la vie après et de jamais être sûr de ce qu'on veut ou de ce qu'on va faire. Donc oui, effectivement, dans ce sens, j'ai beaucoup de chance. D'ailleurs, la direction, je n'ai pas commencé en voulant vraiment commencer. J'étais plus curieux, mais comme je sentais l'ombre importante de mon père, j'ai décidé d'aller aux États-Unis et d'étudier à l'école Pierre Monteux, Maine, qui est une école magnifique pour jeunes chefs. Avoir un peu d'espace et faire un peu ma cuisine, trouver ma cuisine moi-même là-bas aux États-Unis. Donc ça a fonctionné comme ça au début.
Et votre papa nous rappelait hier qu'il a joué sous la direction de Pierre Monteux,
oui,
mais qu'il n'avait jamais étudié avec Pierre Monteux.
Non, moi j'ai étudié avec l'assistant de Pierre Monteux, qui était Charles Bruck, un chef très, très connu à l'époque pour surtout la musique contemporaine. Il était très, 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 très fort dans la musique contemporaine, une oreille extraordinaire. Un professeur très dur, mais très juste. Et c'était parfait de commencer avec une personnalité comme ça. Et une personnalité qui marque à vie, des rencontres comme ça qu'on fait qui sont exceptionnelles.
Alors votre papa a défendu et continue à défendre avec passion et amour la musique française. Il laisse un legs discographique absolument passionnant chez EMI, plus d'une cinquantaine de disques symphoniques, je ne parle pas du lyrique. Aujourd'hui, il a peur que la musique française soit en danger. Est-ce que vous partagez ce sentiment dans la manière d'interpréter la musique française?
Oui, parce que c'est un style très particulier. Et la musique française, il faut pas, elle fonctionne pas dans toutes les mains si ses mains ne sont pas attentives au style. C'est un style qui demande raffinement, élégance, légèreté, couleur. Et c'est un répertoire très très à part, et qui pose un challenge d'ailleurs. Comme dans l'opéra, tout le monde peut chanter l'italien très bien, sans trop de difficultés. Le français, c'est déjà plus difficile parce que c'est ça vient d'une époque aussi très on peut le retrouver dans la peinture partout, mais c'est une élégance, une légèreté qui aujourd'hui fait un peu défaut d'ailleurs en général partout autour de nous, donc ça rend les choses encore plus difficiles parce qu'on est dans un environnement qui favorise pas cette approche.
Donc vous allez essayer de pulser cette énergie, cette élégance.
Je vais faire ce que je peux.
En jouant Chabrier, Chabrier et Poulenc.
Oui. Mais je crois que c'est un mélange intéressant des œuvres, puisque Philippe, avec sa culture, avec sa, je pense, double culture, mais je ne connais pas encore, on va parler de ça. Moi, je suis franco-américain, je suis des deux pays, c'était un peu représentatif, ce programme de nos histoires, peut-être, en tout cas de la mienne. Et donc, je voulais favoriser les œuvres françaises. Donc oui, Bizet, la symphonie de Bizet. Alors, c'est un répertoire que mon père, bien sûr, fait, mais donc je prolonge peut-être à ma manière, peut-être qui est peut-être
mieux.
Semblable et peut-être un peu différente dans le même temps.
Donc résultat, ce soir à 21h. On va vous écouter, on va conclure cette émission avec l'élégie pour violoncelle et orchestre de Gabriel Fauré. Vous êtes avec Xavier Philips, on va en écouter un extrait avant de conclure cette émission.
Merci.
Voilà, nous écoutions un extrait de l'élégie pour violoncelle et orchestre de Gabriel Fauré, Emmanuel Villaume et Xavier Philips, l'orchestre de chambre de Bavière, un disque Warner classique. Voilà, et bien cet Opus Festival de Colmar s'est terminé. Merci à vous, Emmanuel,
merci
Philippe,
beaucoup.
Sophia, d'avoir participé à cette émission et merci à Maxime de l'avoir réalisé. On se retrouve demain, et demain je recevrai Vincent Monteil et le Quatuor à Rhodes.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CICEST et d'Arpège Armand Meyer.